Dernier rendez-vous sur la grenouille autour de l'édition 2012 du festival Les Musiques, organisé à Marseille par le GMEM, Centre National de Création Musicale, avec cette émission spéciale consacrée aux ensembles instrumentaux de musique contemporaine qui sont cette année pas moins de 9 à avoir été invités par Les Musiques. Des ensembles instrumentaux dont les approches et les fonctionnements sont tout aussi divers que les musiques d'aujourd'hui jouées pendant le festival. Vous entendrez donc au cours de cette émission nous parler de leurs démarches, de leur fonctionnement, de leurs problématiques et de leurs ambitions des représentants des ensembles séparés, l'Instant Donné, Hiatus, le Quatuor Bella et les Belges de l'ensemble Ictus. C'est Sébastien Boin, chef d'orchestre et fondateur de l'ensemble Sébarré, un ensemble de 18 musiciens créé à Marseille en 2006, qui commence par répondre à nos questions.
Le projet de monter un ensemble, c'est venu de ma première rencontre avec un compositeur, qui était justement un compositeur qu'on va jouer en ce moment au festival, qui est Félix Ibarrondo. Un compositeur basque donc que j'ai eu l'occasion de chanter dans un chœur lorsque j'étais chanteur, et sa musique m'a vraiment captivé, et le projet initial avec lequel j'ai monté mon ensemble, c'était de monter une œuvre de lui. Donc moi j'avais déjà suivi un parcours de direction d'orchestre au Conservatoire de Marseille, donc forcément j'ai sollicité auprès de moi tous les amis que j'avais au Conservatoire pour pouvoir monter ce petit projet, les meilleurs musiciens du Conservatoire de Marseille à ce moment-là. Et donc à partir de cette pièce de Félix Ibarrondo, on avait monté d'autres œuvres du répertoire contemporain, de Philippe Hersant et d'autres compositeurs. Et à la fin de ce projet-là, on a eu très envie de poursuivre ce projet d'ensemble instrumental. Alors ce qui est assez excitant, c'est que c'est un projet... en fait, la musique d'ensemble, c'est souvent de la musique où chaque instrument est une partie soliste, individuelle. Donc ils ne sont jamais deux ou trois à jouer la même partition, mais ils ont tous vraiment un rôle de soliste dans un grand groupe de musiciens. C'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce projet-là, c'est que finalement, on travaille autour d'un ensemble d'individus et plus autour d'une masse orchestrale. Voilà un peu comment est né le projet de Sébarré. Et donc, ce qui nous a vraiment plu, c'est de pouvoir travailler en direct avec un compositeur, souvent, de pouvoir pénétrer son univers musical, de pouvoir comprendre où est sa source d'imagination, pourquoi il écrit telle ou telle chose, pourquoi il le veut de telle ou telle nuance, pourquoi... Donc c'est toujours formidable d'avoir un compositeur directement avec soi, plutôt qu'un ancien élève d'un compositeur ou qu'un enseignant, tel qu'on avait les enseignants du conservatoire qui nous disaient « Oui, Beethoven, ça se joue comme ci, comme ça, car la tradition dit que... » Alors là, la tradition, elle n'existe pas encore, du coup, on reçoit directement, c'est un peu comme boire à la source, c'est ça qui m'intéresse dans le projet d'ensemble instrumental aussi.
Mais pourquoi avoir voulu monter un ensemble et pas faire appel, par exemple, pour monter cette œuvre de ce compositeur, un ensemble qui existait déjà ?
C'est très rare de pouvoir faire appel à un ensemble quand on dirige, c'est plutôt l'ensemble qui fait appel au chef. Et or là, le projet de l'ensemble Sébarré, c'était de... Donc c'est un ensemble dont j'ai pris la direction et qui me permet de proposer moi-même les programmes à chaque instant, les programmes, les formations. Et parfois, je travaille autour de certaines thématiques auprès desquelles je peux solliciter moi-même certains compositeurs qui me paraissent vraiment très important à défendre. Je leur demande de travailler autour d'une pièce de 12 minutes pour tant de musiciens qui va travailler sur tel ou tel thème. Récemment, on a travaillé sur une pièce de Lionel Ginoux pour chœur et ensemble. Lionel Ginoux, qui est un compositeur de Marseille, qui justement travaillait autour d'un livret de Benjamin Fondane, un auteur roumain. Donc là, c'était quand même quelque chose d'assez précis. Mais voilà, souvent, je fais en sorte... J'essaie de flairer les domaines dans lesquels les compositeurs qui me sont chers pourraient le mieux s'épanouir dans une commande qu'on leur fait. Et donc, parce que j'estime qu'il y a vraiment des compositeurs qui méritent d'être défendus, des compositeurs qui, en fait, en leur faisant des commandes, c'est comme faire des paris, parier sur l'avenir, parier sur est-ce que cette œuvre va pouvoir rester dans l'histoire de la musique, est-ce qu'elle va pouvoir trouver sa place, être rejouée par d'autres ensembles, c'est important. Et moi, c'est un pari qui m'excite beaucoup. Ça m'a toujours vraiment plu d'aller chercher, d'aller fouiller dans des ressources, dans des archives ou même sur Internet pour les compositeurs aujourd'hui, d'aller fouiller jusqu'à ce que je trouve vraiment des perles rares à dénicher et à présenter au public. Voilà. c'est quelque chose qui me motive beaucoup dans le projet d'ensemble.
Vous parliez tout à l'heure d'un compositeur qui vit et travaille à Marseille, ce qui semblait être important pour vous. Quel est le lien de l'ensemble Sébarré que vous dirigez avec cette ville, ce département, cette région?
Alors nous, on essaie de travailler sur un peu tout le territoire en ce moment de la région PACA. Parce que c'est vrai que finalement, il y a très peu d'ensembles de musique contemporaine en région PACA. On est 4 peut-être ou 5, si je me souviens bien.
À l'échelle nationale, il y a combien d'ensembles ?
À l'échelle nationale, il y en aurait peut-être plutôt une bonne vingtaine d'ensembles instrumentaux, avec une bonne dizaine qui sont concentrés en région parisienne, et très peu pour le reste du territoire. Or là, en région PACA, il existe deux ensembles instrumentaux, l'ensemble Télémaque, l'ensemble Sébarré. Et donc nous, en ce moment, on essaie de couvrir un peu tout le territoire de la région PACA, donc grâce à cette résidence qu'on commence au GMEM, qui va se prolonger sur plusieurs années, à travers laquelle on va pouvoir faire plusieurs concerts réguliers pendant l'année à Marseille, mais aussi dans les villes du pourtour marseillais ou même dans toute la région PACA. On travaille aussi, avec le CIRM à Nice, qui est un autre centre de création nationale comme le GMEM. Donc ça nous permet d'avoir de travailler sur les deux côtés de la région. Et on entame aussi une résidence au Festival de Chaillol, qui travaille sur tout le pourtour du Pays Gapençais, dans les Alpes. Donc voilà, on essaie de mener des projets à long terme dans ces trois pôles régionaux.
Là, ce que vous racontez, c'est un rapport à la région, un rapport plutôt de diffusion, c'est-à-dire essayer de faire entendre les compositeurs que vous souhaitez faire entendre un peu de partout. Est-ce qu'il y a aussi un rapport plus musical, un lien que vous privilégiez avec des compositeurs qui travailleraient dans la région ou avec une culture sonore qui serait régionale ou locale ?
Alors, moi, j'ai plutôt tendance à privilégier les musiques d'inspiration méditerranéenne en général. Plutôt en ce moment, d'ailleurs, je pense que je fonctionne plus ou moins par cycle de 3 ans, ou peu à peu, au gré des rencontres, je laisse porter mon inspiration. Donc en ce moment, là, je pense que en ce moment, je suis vraiment sur les cultures méditerranéennes. Et notamment, pas simplement, comme on en a l'habitude, les compositeurs espagnols, français ou italiens, mais on essaie d'étendre maintenant notre programme jusqu'à des compositeurs libanais qu'on connaît, comme Zad Moultaka, avec lequel on commence à travailler, qui est un excellent compositeur. Un compositeur jordanien qui s'appelle Saïd Haddad, qui est vraiment... je pense que des compositeurs qui, là, pour le coup, ont déjà même une réputation assez... assez bien établi en Europe, pas tout à fait encore en France pour Saïd Haddad, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et de la musique qui me plaît vraiment de défendre. Alors souvent j'en fais des parallèles avec ces compositeurs aussi qui nous sont chers, qui viennent d'Espagne, notamment Miguel Galvez Taroncher, Félix Ibarrondo, Ivan Solano, avec qui on va bientôt aussi faire une prochaine création.
Et qu'est-ce qui vous séduit dans ces écritures-là ?
Alors, ce qui me séduit dans ces écritures-là, c'est le tempérament méditerranéen, c'est-à-dire la spontanéité, les gestes vifs, spontanés, parfois un peu primitifs de la musique. Je pense que c'est une musique qui est portée de façon très instinctive et qui peut parler de façon directe au public. Je dirais même très intuitive comme musique. Donc je pense qu'on peut y rentrer, on peut vraiment rentrer très facilement dedans, même si au premier abord, on a toujours cette barrière, oh là là, c'est de la musique contemporaine, est-ce que ça va... je sais pas, est-ce qu'on va comprendre ? Je pense que vraiment, c'est le genre de musique dans laquelle il n'y a qu'à se laisser porter. Elle est très exigeante en même temps, parce que ces compositeurs-là ont vraiment cette nécessité d'écrire. Hein. Ils n'écrivent pas pour des œuvres décoratives, ils écrivent vraiment pour... ils portent un message, comment dire, humaniste, à chacun à leur façon. Et donc nous, en dehors de jouer dans d'essayer de jouer dans tout le territoire régional, on s'efforce aussi de créer des activités en amont de nos concerts, souvent avec le CFMI d'Aix-en-Provence, qui est un centre de formation pour musiciens qui doivent intervenir dans des écoles primaires la plupart du temps. Là, dans notre dernier concert qu'on a fait au mois de mars dernier, on a travaillé avec 8 écoles primaires du pourtour de Gap, justement dans le festival de Chaillol, qui travaillait en fait sans le savoir, qui travaillait déjà les œuvres qu'on allait donner en concert et auxquelles ils allaient assister. Donc on se servait à l'origine de ces œuvres qu'on donnait en concert pour développer des ateliers de création avec les enfants, où finalement eux-mêmes, guidés par l'intervenant du CFMI, réussissaient à reconstituer l'œuvre qu'on allait donner au concert. Et enfin, c'est très... Moi, je trouve ça magnifique, le moment où l'enfant au concert reconnaît tout ce qu'il a fait. Je trouve que c'est un très bon moyen de faire que la jeunesse, les futurs publics potentiels ou les futurs musiciens même puissent finalement, par ce biais-là, s'approprier la musique d'aujourd'hui sans aucun a priori de musique contemporaine, musique classique, mais juste en rentrant directement dans la matière et en l'écoutant comme de la musique, tout simplement.
Sébastien Boin, depuis que vous avez fondé cet ensemble, quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confronté ?
C'est pas passionnant, hein, c'est particulièrement administratif. C'est-à-dire que moi, mon projet initial, je rêvais vraiment d'un ensemble qui tout de suite tourne beaucoup. Du coup, je réalisais pas qu'au moment où il allait falloir salarier les musiciens, on allait avoir autant de paperasse administrative à gérer. Et finalement, je me suis retrouvé pendant quelques années à ce que 95% de mon temps dans l'année soit occupé à de la logistique, de l'administration, et puis pas spécialement à ouvrir une partition de musique, ni à... Donc voilà. Donc en ce moment, grâce au soutien du GMEM, principalement grâce au soutien du GMEM, en ce moment, on réussit à sortir de ce fonctionnement. On réussit aussi, grâce à la DRAC, au soutien du ministère de la Culture, à pouvoir embaucher plus facilement des administrateurs qui prennent cette charge eux-mêmes de toute cette problématique administrative qui me permet, moi, de pouvoir, c'est très important, de pouvoir rêver un peu et de pouvoir préparer, mûrir les projets musicaux qu'on prépare.
Vous nous rappeliez donc qu'il y a une vingtaine d'ensembles instrumentaux qui travaillent en France. Comment vous voyez-vous le rôle de ces ensembles dans la musique contemporaine aujourd'hui ?
Alors, les ensembles instrumentaux qui sont donc autonomes, hein, sous forme associative, comme les Sébarrés, quelquefois sont dirigés artistiquement par des compositeurs qui veulent faire jouer leur musique. Donc il y a quelques ensembles comme ça en France qui sont même de très bons ensembles et qui tournent pas mal. D'autres fois, par des directeurs comme je le suis, qui sont dans la même démarche que moi, c'est-à-dire... trouver la musique qui personnellement on estime devoir défendre. Et là, je pense que... Comment dire ? Personnellement, il y a des compositeurs que je ne jouerai jamais, enfin je pense, ou en tout cas pas de moi-même, que d'autres ensembles défendent. Et je trouve ça très important qu'on ait chacun cette diversité de choix artistiques, parce que...
C'est un peu l'idée que ces ensembles défendent la diversité musicale d'aujourd'hui.
Oui, ça me semble très important, ouais, très important. Sinon, effectivement, ce serait très... je pense que c'est pas si évident que ça aujourd'hui pour un compositeur de se faire jouer. Donc voilà, je pense que justement la multiplicité des ensembles, tout en étant très exigeant musicalement, permettent cette diversité de...
L'ensemble L'Instant Donné était invité par le GMEM à jouer dans les musiques sous forme de trio, des pièces de musique de chambre de Maurice Ravel et de Salvatore Sciarrino. Une sorte de regard croisé sur ses œuvres composées au début et à la fin du XXe siècle. L'une des particularités de cet ensemble, L'Instant Donné, installé à Montreuil, est qu'il n'est dirigé ni par un chef d'orchestre ni par un directeur artistique. C'est un collectif de 9 musiciens, comme nous l'ont raconté Nicolas Carpentier, violoncelliste, Caroline Crène, pianiste, Saori Furukawa, violoniste et Rémi Janin, à la logistique.
Ce qui est particulier dans notre ensemble, c'est que c'est un ensemble de musique de chambre sans chef, comme un ensemble de musique de chambre classique. Ce qui veut dire que c'est vraiment, en termes de répétition, nous sommes chacun partie prenante du travail musical. On n'est pas à déléguer ce travail à un chef qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et lui est moteur. Là, pour le coup, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est quand on est 9 en répétition avec tous les musiciens et que chacun a une idée, il faut prendre le temps d'écouter chacun. Des fois, on pourrait passer plus de temps à parler qu'à jouer. Donc, c'est gérer les énergies, et puis forcément, on n'est jamais tous d'accord. Donc, il faut se convaincre, il faut prendre le temps. Donc, la difficulté, elle est là.
Et cette difficulté, vous avez décidé de la gérer parce que musicalement, c'est plus intéressant que travailler avec un chef ?
C'est pas plus intéressant, c'est un autre travail. Pour les pièces qu'on joue, nous, on considère qu'on peut les jouer sans chef. Sur certaines pièces, pour des pièces d'ensemble, c'est pas possible. Il y a certaines pièces impossibles à jouer sans chef. Celles qu'on joue, ce sont des pièces qu'on considère qu'on choisit. Parce qu'on peut les jouer sans chef, comme un quatuor de Mozart, un trio de, comme le trio de Ravel. La question ne se pose pas. Sur certaines pièces, pour nous, c'est aberrant de jouer ça avec un chef. Et d'autres ensembles ne considèrent pas la même chose. Donc voilà, notre particularité, elle est là.
Alors là, je précise que là, l'instant donné est en trio, mais en fait, Nicolas fait référence à des pièces avec des effectifs beaucoup plus étoffés, jusqu'à 9 musiciens sans chef. Et là, c'est beaucoup plus rare d'avoir un effectif comme ça. Je crois que dans le fait de jouer sans chef, c'est pas une idée préconçue qui se dit tiens, on va jouer sans chef et puis voilà. Je crois que c'est un petit peu différent, c'est une autre approche de la partition, c'est une approche qui est plus globale, qui demande de connaître la partie des autres aussi, pour pouvoir se repérer. Il n'y a pas de chef qui va faire le lien entre tout le monde. Là, il faut connaître la partie des uns, des autres, avoir une vision globale de la partition, et avoir une écoute et une attention particulière à l'autre. Et ça, c'est une posture qui est vraiment particulière à cette démarche de musique de chambre que l'on ne trouve pas forcément quand il y a un chef devant l'ensemble. Voilà.
Aujourd'hui, est-ce que pour les ensembles, il y a une nécessité de se spécialiser pour exister ? Comme vous dites, on fait de la musique de chambre, c'est un ensemble sans chef d'orchestre pour cette écriture-là de musique de chambre ?
Je ne sais pas si c'est une nécessité. Je dirais pour nous, c'est plus le résultat de choix qui se sont faits au fur et à mesure. C'est comme ça dans la vie, quand on commence, on a un éventail très large, et plus on avance dans la vie, plus on fait des choix. Et plus on fait des choix, plus finalement ce que notre action devient dessinée, précise. Alors je ne sais pas si justement on a fait le choix de se dire tiens, on va se spécialiser. Je ne crois pas. Le résultat est peut-être celui d'une spécialisation, mais je ne dirais pas que c'est forcément volontaire. Et effectivement, en se retrouvant en disant nous allons faire de la musique de chambre, c'est un choix, nous allons faire de la musique de chambre sans chef, c'est un choix, nous allons jouer des compositeurs vivants, voilà. Et alors petit à petit, effectivement, ça devient une spécialisation, mais il n'y a pas une volonté au début de se dire on va se spécialiser. Et alors de la nécessité à se spécialiser, ça libre à chacun, hein.
Est-ce que vous pourriez me parler chacun, et peut-être qu'on pourrait vous entendre vous, de votre expérience de musicien au sein de cet ensemble Instant Donné, est-ce que ça a de particulier par rapport aux autres expériences musicales que vous pouvez vivre par ailleurs ? Saori ?
Alors tout d'abord, comme on avait dit au début, c'est un ensemble de musique de chambre. Moi, j'ai beaucoup une affinité de ce mode de jeu, de travail, ce système de dialogue avec des musiciens. Donc ça, c'est quelque chose que je me réjouis constamment avec mes camarades. Et je ne sais pas pour tout le monde, mais c'est assez rare d'avoir un ensemble qui sont là, toujours présents, toujours envie de faire dans la durée. Moi, je n'ai pas connu un groupe qui a une durée importante comme ça. Et ça, je trouve que c'est formidable. Oui, je ne trouve pas facilement ça ailleurs. Donc, voilà.
Caroline, même question. Ce que vous trouvez dans cet ensemble que vous ne trouvez pas ailleurs ?
Mais je vais rejoindre un peu Saori, même complètement. Alors, c'est vrai que moi, étant pianiste, j'ai moins l'occasion d'aller jouer ailleurs, puisque mes amis les cordes, c'est vrai, sont quand même souvent appelés dans d'autres ensembles. Le piano, il y en a souvent qu'un, enfin, je parle par exemple des orchestres ou des choses comme ça, ou des grands ensembles de musique de chambre. C'est vrai que les rares choses que j'ai faites à l'extérieur m'ont souvent déçue. en fait. Et j'ai souvent été frustrée, parce que c'est vrai, et c'est là où je rejoins Saori, c'est que cet ensemble à son donné, pour moi, c'est quelque chose de très rare. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et je pense que c'est pour ça aussi, parfois, c'est pas simple. Voilà, on a tous nos égos, nos caractères. Mais c'est ce qui est riche à l'instant venu. C'est ce qui est beau aussi, c'est que je pense que chacun y met le maximum. Et c'est vrai que ça, les choses que j'ai fait ailleurs, on ne rencontre pas. C'est vrai que c'est un ensemble aussi qui, je pense, demande, bien sûr, un investissement qui est énorme. Et je pense que ça permet aussi de se dépasser à chaque fois. Et ça, c'est très important. Et par exemple, je parle personnellement, c'est vrai que l'instant donné, ça occupe une partie de ma vie qui est énorme, j'ai envie de dire presque, peut-être excessif, mais je vis instant donné, je mange instant donné et je dors instant donné. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment très prenant. Et je rejoins encore Saori, excuse-moi, je te pique tes idées, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très épanouissant et de très riche. Ça remplit énormément, ça demande énormément aussi, donc on se vide beaucoup, mais on se remplit aussi beaucoup. Donc voilà.
Nicolas, même question pour vous, vous avez l'air de vous épanouir dans d'autres expériences aussi.
Oui, donc moi, à la différence de Saori ou de Caroline, c'est que j'ai eu un autre ensemble, un quator classique de musique de chambre, qui a duré plus de 8 ans, donc c'est pas la première expérience pour moi d'un ensemble à long terme. Disons que pour mon cas, c'est un peu différent, c'est que, comme avec Saori, on est corde, donc on a plein de choix. On peut faire la variété, on peut aller rejoindre les télés, les séances d'enregistrement, on peut aller cachetonner dans les orchestres, on peut être titulaire dans un orchestre, on peut faire de la musique de chambre, on peut faire de l'improvisation, on peut faire de la musique de théâtre. Et à un moment donné, là on revient en termes de spécialisation, moi j'ai commencé, j'ai fait énormément de choses, donc tous ceux dont j'ai parlé, je les ai faits au fur et à mesure des années. L'instant donné, comme on me l'a proposé, j'avais déjà fait de la musique contemporaine, mais jamais de manière intensive et poussée. Donc ça a été un challenge pour moi de le faire, de me projeter dans ce projet. Et là où je l'ai rejoint complètement, c'est qu'au bout d'un moment, on est obligé de faire un choix, est-ce qu'on veut continuer ou pas, parce que ça prend... Je ne suis pas comme Caro, je ne dors pas à un instant donné. Mais en tout cas, je me réveille souvent à un instant donné, à 8h du matin en répétition, jusqu'à 23h. Ça arrive régulièrement, c'est arrivé régulièrement. Donc ça demande à un moment donné de garder au moins la moitié de sa semaine, de son mois, de l'année, juste pour ça. Donc si on veut faire d'autres choses, il faut bien définir ses priorités dans la vie, quoi. Mais pour l'instant, l'ensemble tient, les énergies... se complètent, voilà, c'est des gens qui sont tous ensemble, il y a quelques rebelles et révoltés, et c'est très bien.
Quel est, pour un ensemble tel que l'instant donné, l'importance d'un festival tel que les musiques du GMEM à Marseille ?
Déjà, c'est absolument très très important d'avoir ce genre de festival. Ça permet d'ouvrir une fenêtre sur une partie de la musique qui n'est pas si souvent mise en valeur. Ça permet de faire des découvertes. Et c'est absolument vital, aussi bien pour les musiciens que pour les compositeurs, mais avant tout pour le public, que ce genre de festival existe. C'est vraiment très très important.
Qu'est-ce que vous recherchez dans les festivals ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, hormis le fait de jouer ?
Ce qui est intéressant dans les festivals, c'est qu'en général, dans un festival, c'est toujours à peu près le même public qui revient tous les ans. Donc le festival travaille avec son public et se crée une audience. Donc ce qui fait que pour nous, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer une audience ici à Marseille. Et puis, dans un mois, on va aller à Witten et on va rencontrer un public complètement différent avec d'autres attentes qui a été formé à la musique contemporaine, mais sous d'autres angles. Donc nous, on va arriver, ça va nous renvoyer beaucoup de choses, beaucoup d'intérêt, de richesse. Et puis on va aller dans une autre ville ou dans une autre région, on va apprendre aussi autre chose. C'est différent, alors que quand on va sur des concerts juste one shot, c'est un public très disparate, qui n'a pas forcément de culture ou auquel on n'apprend pas forcément grand-chose sur du long terme, quoi.
C'est une émission spéciale sur La Grenouille consacrée aux ensembles instrumentaux de musique contemporaine, une émission imaginée en partenariat avec le GMEM, Centre National de Création Musicale, à l'occasion de l'édition 2012 du Festival Les Musiques. un festival qui se déroule en ce moment dans divers lieux à Marseille. Après l'ensemble Sébarré, l'ensemble L'Instant Donné, nous vous proposons d'écouter maintenant le percussionniste Lê Quan Ninh, un percussionniste qui a fondé en 2006 avec la violoncelliste Martine Altenburger l'ensemble Hiatus, un ensemble invité à jouer les 5 Ryōan-ji de John Cage en compagnie des danseurs de la chorégraphe Olivia Grand. Lê Quan Ninh.
C'était une nécessité de pouvoir réunir des musiciens et des musiciennes qui soient à la fois interprètes et improvisateurs. Parce que, à titre personnel, j'ai toujours mené de front les deux activités, celui d'interpréter de la musique contemporaine et celui d'improviser librement. Et pendant des années, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui était... Est-ce qu'on pouvait trouver une cohérence entre les deux pratiques? Est-ce qu'il y avait quelque chose de commun entre les deux pratiques? Parce que je n'arrivais pas du tout à trouver, disons, à l'extérieur, c'est-à-dire dans la forme elle-même, par exemple, des points communs. Et surtout dans les appuis qui sont pris pour pouvoir jouer. Alors, tout ça me posait question. Et puis tout d'un coup, la réponse est venue toute seule. Et elle est d'une simplicité absolument affligeante. C'est que le point commun, c'était nous, tout simplement. C'est-à-dire que c'est les personnes qui le font, c'est les personnes qui peuvent jouer de la musique vraiment écrite, d'aujourd'hui ou pas d'ailleurs, et de pouvoir improviser. Et donc le lien, c'était pas forcément de le trouver justement à l'extérieur, c'est-à-dire dans des raisons, dans des concepts, dans des formes, dans des solfèges quelque part. C'était simplement nous, en tant qu'êtres humains, qui étions le lien. Et à partir du moment où je me suis fait cette réflexion toute simple qui m'a quand même pris 25 ans, il était temps à ce moment-là de monter un ensemble qui pouvait vraiment réunir des personnes qui avaient un peu le même sentiment et au moins qui pouvaient partager cette bascule qu'il y a entre la musique improvisée et la musique écrite. Et de pouvoir, dans un même concert, par exemple, passer de l'un à l'autre, comme ça. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas du tout quelque chose de facile à faire, mais qui est complètement, pour nous, assez renversant, assez bouleversant. C'est vraiment un tangage, quoi, d'aller de l'un à l'autre. Et c'est nous, finalement, qui sommes cette oscillation entre les deux choses. Voilà.
C'est ce qui distingue l'ensemble Hiatus des autres ensembles?
De la plupart, mais je pense que depuis quelques années, il y a de plus en plus d'ensembles qui se montent et qui sont en tout cas qui abordent les deux aspects de la pratique, c'est-à-dire celle vraiment de l'interprétation et celle de l'improvisation, de plus en plus, et particulièrement les jeunes ensembles, parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose ces dernières années en Europe. C'était déjà le cas, on pourrait dire, aux États-Unis avant, dans les universités en tout cas, c'est qu'il y a dans le cursus des musiciens qu'on dit classiques en tout cas, il y a de plus en plus de classes d'improvisation, ce qui fait que les nouvelles générations ont beaucoup moins de problèmes avec le fait d'improviser et d'interpréter, même s'ils ne le mettent pas du tout au même niveau. Je pense que les nouvelles générations qui apprennent, enfin, je ne sais pas si on peut apprendre ça, mais en tout cas qui ont une formation, quelle qu'elle soit, mais enfin une formation qui aborde au moins le thème de l'improvisation, et l'improvisation pas forcément cadrée comme dans le jazz par exemple, eh bien l'aborde de manière plus technique quelque part, hein, c'est-à-dire c'est c'est comme si c'était une nouvelle corde à leur arc, en fait. Nous, on est de l'ancienne génération, on pourrait dire, on n'a pas appris ça au conservatoire, si toutefois c'est faisable d'apprendre ça au conservatoire, mais enfin en tout cas, on l'aborde de manière plus poétique peut-être, ou plus provenant d'une profonde nécessité, puisque personne nous a indiqué que c'était possible, à part des improvisateurs ou des improvisatrices, eux ou elles-mêmes, qui sont là depuis longtemps et depuis la fin des années 50. Et donc... C'était tout d'un coup de voir des gens comme ça, on fait naître en nous une nécessité de vraiment pouvoir trouver une nouvelle relation au sonore et sa propre relation au sonore et aux circonstances présentes. Donc c'est un aspect très différent de la nouvelle génération qui, elle, a des professeurs qui sont là, qui ont peut-être aussi cette expérience-là, mais qui transmettent des choses ou qui ont dû discerner aussi les choses d'une manière plus précise. Nous, on ne discerne pas, on est beaucoup plus dans le mouvement, en fait, dans le flux de la pratique.
Selon les ensembles, il y en a qui sont dirigés par des directeurs artistiques, des chefs d'orchestre, il y en a d'autres qui sont plus des collectifs de musiciens. Vous vous rapprocherez de quel type de fonctionnement ?
Oui, c'est plus un collectif de musiciens, parce qu'on met tout en commun. Moi et ma compagne, on a donc voulu la création de cet ensemble, mais à aucun moment on ne veut diriger artistiquement une répétition ou la façon d'opérer sur une œuvre, par exemple, ou la façon d'improviser. Non, absolument pas. De toute façon, si l'ensemble fonctionne comme ça, c'est parce que du fait même que les musiciens sont à la fois interprètes et improvisateurs, et donc improvisateurs, un improvisateur, la définition, la base première, c'est que c'est quelqu'un qui développe une autonomie. Donc à des gens qui ont développé une autonomie, on ne va pas leur dire comment il faut faire. On fait les choses et on met en commun les choses, puisque cette autonomie-là est basée sur la circulation, obligatoirement de la parole et du point de vue et surtout de l'écoute.
Vous êtes dans cette édition 2012 des musiques du GMEM venu jouer du John Cage. Donc, que représente ce compositeur pour vous ? Et c'est une proposition qui est en compagnie d'une chorégraphe, Olivia Granville. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en tant que musicien, dans ce type de collaboration avec des chorégraphes et des danseurs ? Je crois que ce n'est pas la première.
Oui, alors tout d'abord, que représente John Cage ? Il représente beaucoup, hein, puisque moi, cela fait 30 ans exactement que j'ai eu un véritable choc, j'ai vraiment senti un choc qui a vraiment bouleversé complètement ma vie, qui était un spectacle de la compagnie de Merce Cunningham avec John Cage qui jouait et David Tudor et Takiza Okosugi, donc les trois musiciens vraiment qui étaient les trois musiciens piliers, hein, de la compagnie de Merce Cunningham. Et ça a été un choc dont je ne me suis jamais remis. Bien évidemment, ce n'est pas un choc qui m'a bloqué uniquement sur ce compositeur, mais bien évidemment, c'est un choc qui au contraire, m'a ouvert les oreilles et l'esprit. Et du fait que c'était la première fois que je ressentais une notion pleine et entière et qui est pourtant peu descriptible et assez difficile à définir, qui était celle de la liberté. Tout d'un coup, j'ai vu des gens qui étaient incroyablement présents et qui me laissaient libre, qui me laissaient libre d'entendre, d'écouter, qui me laissaient libre de voir. Parce que j'ai tout de suite été saisi par cette réalité, en fait. Donc c'est difficile à décrire, c'est pas quelque chose de raisonné, c'était un pur saisissement que, en effet, pour la première fois, mon regard était libre et mes oreilles étaient libres. Parce que, s'il est appris plus tard, effectivement, il fonctionne comme ça. Il mettait les choses ensemble, dans le même temps et dans le même espace, mais il n'essayait pas de faire sens, il n'essayait pas de verrouiller les choses, qu'il y ait des correspondances les unes entre les autres, que les choses étaient dans le même temps, dans le même espace, librement, sans qu'une chose en empêche une autre. Et moi, je l'ai saisi d'emblée, comme une sorte d'éveil, vous voyez. Et donc, je n'ai pas cessé d'explorer la musique de Cage en particulier. Et je continue, 30 ans après, à être autant émerveillé, bouleversé, ému par ce travail. Et d'autant que les 30 années maintenant qui me séparent de ce choc et pendant lesquelles je n'ai jamais cessé de jouer sa musique, je continue à découvrir tout le temps des choses encore plus extraordinaire, encore plus profonde, et parfois, et même souvent, dans des œuvres qui semblent extrêmement simples. Donc, c'est un personnage extrêmement important. Et donc, nous allons jouer la partition de Ryoanji. C'est une partition qui me fascine depuis 17 ans, puisque c'est la première fois que je l'ai jouée. J'ai joué avec une des dédicataires de la partition, Joël Léandre, la contrebassiste. Et j'ai été aussi complètement saisi par cette expérience. Et ça fait donc, je l'ai jouée régulièrement, cette pièce, ça fait 17 ans que cette pièce continue de me fasciner complètement. Et donc, je suis extrêmement heureux que ce projet que j'avais en tête de monter les 5 Ryoanji ensemble, hein, parce qu'il y a 5 partitions qui portent le même titre pour 5 instruments différents, avec la percussion qui est obligée, qui est toujours la même, avec une chorégraphie, c'était quelque chose qui m'était tout de suite venu à l'esprit la première fois que je l'ai joué. Et c'est en 2012 que ce projet a pu se réaliser. Et le hasard, et je parlais tout à l'heure qu'il ne fallait pas calculer, c'est absolument vrai, le hasard a voulu que le projet pouvait se monter cette année-là et que c'est le centenaire de Cage. Et le 20e de sa mort. Donc c'est un triple miracle, en fait. Voilà. Et je suis donc extrêmement heureux. Alors le rapport avec la danse, Je ne sais pas, c'était une évidence. Je pense que c'était de vouloir monter cette musique avec la danse. C'était peut-être, ça provient de ce choc initial, puisque j'ai rencontré la musique de Cage avec la danse, avec celle de Merce Cunningham. Et donc, ce choc initial qui a peut-être fait que, de toute façon, il n'y avait pas de discussion possible. Ça ne pouvait être qu'avec la danse. Mais je pense qu'aussi, il y a quelque chose qui, évidemment, que j'aime explorer et qui provient bien évidemment de, on pourrait dire, de l'extraordinaire influence qu'a eu Cage sur ma propre sensibilité, ma propre pensée, c'est que déjà de jouer les 5 Ryuan-ji comme on les joue, c'est-à-dire où chaque soir les musiciens tirent au dé quand est-ce qu'ils vont jouer leur partie dans le temps, parce qu'ils ont 8 ou 9 parties à jouer qui sont séparées de silence, et donc chaque soir ils tirent au dé quand est-ce qu'ils vont jouer leur partie numéro 2, leur partie numéro 3, la partie numéro 4, etc. Donc c'est chaque soir différent, chaque fois qu'on le joue c'est différent au niveau de la musique, puisque justement les différents instruments vont se mêler sans qu'on l'ait prévu, et on va découvrir les superpositions, les simultanéités, ou au contraire les temps de silence extrêmement longs au moment où on le joue. Donc déjà, il y a une forme de complexité de la simultanéité. En fait, c'est comme si on regardait, si on porte vraiment attention à ce qui se passe dans la rue, par exemple. On regarde, on s'assied, par exemple, et on regarde ce qui se passe dans la rue. Qu'est-ce qu'on voit ? Des tas de gens qui vont dans des directions différentes, qui sont habillés différemment, qui marchent à différentes vitesses ou qui ne marchent pas du tout. Il y a une simultanéité d'action hein, dans la vie. Et bien, c'est la même chose dans la musique de Cage. Et donc, de rajouter en plus une chorégraphie, c'est rajouter aussi une possibilité de la simultanéité, et donc de pouvoir voir et entendre des choses qui sont simultanées mais qui n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres. Et d'ailleurs, Cage disait qu'on surestimait les relations, le rôle des relations. Il faut absolument que les choses soient en relation. Et il disait on surestimait ça, et que au contraire, qu'il n'y ait pas de relation, c'est une extraordinaire libération. Et simplement de pouvoir faire que chaque personne dans le public, par exemple, puisse faire ses propres relations, qui ne seront pas celles du voisin. C'est une liberté. Et pourtant, tout le monde le fait en même temps. Donc, il y a à la fois le côté chaque individu est, on pourrait dire, singulier, et en même temps, on peut partager le même travail qui est celui de faire des relations dans toutes ces simultanéités. Voilà.
Autre ensemble instrumental présent pendant les Musiques 2012, le Quatuor Bella, quatuor à cordes fondé en 2003 par 4 étudiants du Conservatoire de Lyon, très actifs dans la création de pièces de compositeurs vivants aujourd'hui, très présents aussi dans des collaborations avec des artistes du spectacle vivant ou de musiques actuelles telles que Fantasio ou Albert Marker. C'est Frédéric Aurier, violoniste, qui a répondu à nos questions.
Le Quatuor Bella s'est créé à Lyon. Nous sommes tous issus du Conservatoire supérieur de Lyon, donc c'est là-bas qu'on s'est connus. Et puis voilà, entre gens qui désiraient défendre le répertoire contemporain, on n'est pas si nombreux, on s'est vite reconnus, trouvés, et voilà, on a décidé de créer ce quatuor.
Parmi les conservatoires, il n'y a pas beaucoup de musiciens qui prennent le chemin du contemporain ?
Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Le conservatoire, évidemment, propose cette musique aux étudiants, propose de la découvrir, de la travailler. Mais tout de même, il faut être un petit peu... faut aller chercher. Et je crois que nous, on avait envie de chercher un peu plus loin. Donc c'est ce qui nous a réunis autour de ce projet du Quatuor Bella, qui est de défendre le répertoire contemporain avant tout.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous séduit, vous, dans cette musique ?
La diversité, peut-être, d'abord, parce qu'aujourd'hui, les courants sont tellement éclatés, les idées sont tellement larges, qu'il y a beaucoup de musiques très différentes. Et puis, c'est quand même une chance, une grande excitation, de pouvoir jouer des pièces qui ont été assez peu interprétées, voire jamais interprété avant. Ça, c'est quand même très agréable. On a tous une formation classique, on est tous dans le Quatuor Bella en mesure de jouer du Brahms ou du Mozart, et d'ailleurs on le fait de temps en temps par ailleurs. Mais voilà, quand d'immenses musiciens ont déjà interprété ses œuvres, qu'il y a une tradition de jeu, bon, c'est parfois un peu lourd, un peu pesant. Et là, on a cette fraîcheur, on a cette vraie responsabilité de s'approprier une œuvre, de la porter, de la défendre et d'essayer de la donner au public. Je crois que c'est vraiment ça, avant tout.
Dans le paysage des ensembles instrumentaux, le quatuor à cordes semble avoir une place très particulière, très valorisée. Comment ça s'explique ?
Le quatuor à cordes est une formation vieille de 250 ans, très gros. Et tous les compositeurs ont toujours écrit pour quatuor à cordes. C'est une espèce de synthèse, quatre instruments qui sont assez identiques, qui ont le même timbre, qui ont simplement des tessitures différentes. Ça permet vraiment d'écrire toute la musique. Voilà, ça a souvent servi de cahier d'esquisse, pour faire un rapprochement avec les arts plastiques, de cahier d'esquisse au compositeur, mais aussi de laboratoire. C'est les musiques peut-être les plus expérimentales, les plus folles ont été souvent écrites pour le quatuor. Donc on a vraiment cette chance-là d'avoir un répertoire totalement infini. Et puis cette chance aussi que, même si la formation est très ancienne, les compositeurs d'aujourd'hui écrivent encore beaucoup pour quatuor. Ce qui n'est pas le cas du trio, par exemple, avec piano, des quintettes. Même le trio à cordes est beaucoup moins bien servi. Enfin, voilà. Même l'orchestre symphonique, pourrait-on dire, est en perte de vitesse pour des raisons aussi économiques. Enfin, c'est assez compliqué d'écrire pour orchestre, mais le quatuor à cordes est une formation privilégiée. Peut-être aussi on a la chance, avec les instruments à cordes, d'avoir une grande richesse de palettes sonores, de choses très très fines. On peut produire beaucoup de sonorités très... très différentes, parfois très étranges, avec ces instruments. Donc, bon, ça laisse quand même une latitude aux compositeurs d'aujourd'hui. Maintenant, avec la musique électro-acoustique, avec la musique concrète, avec toutes les expériences qui ont été menées, c'est vrai que le son naturel, le bruit, fait partie intégrante de la musique. Et sur nos instruments, on a cette chance de pouvoir produire vraiment beaucoup de choses très diverses. Mais il y a aussi des compositeurs qui cherchent à électrifier le quatuor, qui font jouer le quatuor avec des effets, avec des bandes. Il y a aussi des compositeurs qui écrivent encore de manière très classique, avec des accords parfaits. On pense à la musique de Steve Reich, par exemple, des minimalistes américains, qui est très conventionnel d'écriture, mais qui, malgré tout, reste une musique de notre temps.
Le quatuor Bella, cette année, je crois, 10 ans. Quels ont été les moments décisifs dans ces 10 ans du quatuor Bella ?
La rencontre avec la compagnie des Rémouleurs, compagnie de marionnettistes parisiens, avec laquelle nous avons créé un spectacle qui s'appelle Machina Memorialis. Ça nous a vraiment ouvert cette dimension aussi de l'association avec d'autres formes d'expression artistique. C'est quelque chose à laquelle on est assez attentif. Jouer avec des comédiens, jouer avec des plasticiens, jouer avec...
Pourquoi ?
Bah parce que c'est une... D'abord, c'est pour nous un enrichissement perpétuel, quoi, de se confronter à des méthodes de travail qui n'ont rien à voir, des préoccupations qui ne sont absolument pas les nôtres, et puis de trouver les solutions musicales, techniques, pour que la fusion puisse se faire. Comme je le suggérais tout à l'heure, là, quand on travaille la musique contemporaine, déjà on est obligé de remettre en question beaucoup de choses qu'on a appris sur l'instrument. On est obligé d'apprendre de nouveaux gestes pour créer ces nouveaux sons. Un quatuor à cordes se place toujours les deux violons à gauche, les basses à droite par exemple. C'est pas toujours l'évidence dans la musique d'aujourd'hui. On est parfois obligé de se placer autrement, de tenir un instrument autrement, etc. Donc, je crois que cette remise en question constante nous facilite peut-être les choses pour aller carrément explorer d'autres choses et même, pourquoi pas, poser des instruments pour s'occuper de lumière, pour chanter aussi. Voilà, évoluer dans une scénographie, tout un tas de choses. Alors là, pour le coup, qu'on n'apprend vraiment pas au conservatoire et qui nous ont beaucoup éclairés.
Vous avez travaillé avec Fantasio et Albert Marker. C'est ce qu'on appelle les musiques actuelles. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces expériences? Et est-ce que vous revendiquez ce terme pour la musique que vous jouez, de musique savante? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que Albert Marker et Fantasio ne sont pas savants, par exemple?
Musique savante, je, c'est délicat d'en donner une définition. Peut-être une musique qui peut difficilement se passer du support écrit, qui est conçu par un spécialiste et qui est interprété par des spécialistes. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. À cet égard, la musique d'Albert Marker est très savante, parce que c'est un musicien très érudit d'abord, et qui nous a toujours donné des partitions, donc, chaque fois qu'on a travaillé avec lui, des partitions très élaborées, très travaillées, très pensées. A contrario, Fantasio, lui, est un musicien qui est surtout improvisateur, qui a un instinct un génial sur scène. Donc on ne peut pas le ranger dans la musique savante. Évidemment, il n'y a rien de qualitatif dans ces dénominations. J'espère que je me fais bien comprendre. Et voilà, je crois qu'avec Fantasio, par exemple, on apprend une attitude sur scène, une position d'interprète, une responsabilité d'interprète qui est vachement différente de la nôtre, quoi. C'est vrai que quand on joue avec des guillemets cachés derrière une partition, on est un peu déresponsabilisé. On joue une œuvre, c'est pas nous qui l'avons écrite. On essaye de faire le mieux possible. Mais bon, après, si ça vous plaît pas, bah, allez demander à Mozart, à Bach ou à Ligeti ou à Lahrenmann. Un musicien comme Fantasio, lui, ne peut pas se permettre de se cacher de la sorte. La plupart du temps, tout ce qui sort lui vient de sa propre imagination, de ses tripes et de son cerveau. Et voilà, je crois que c'est une leçon pour nous de fréquenter des musiciens.
Continue un peu sur ce parallèle entre musique savante, enfin musique contemporaine, musique actuelle. Si on fait la comparaison entre un quatuor à cordes et un groupe de musique actuelle, souvent les groupes de musique actuelle jouent la musique qu'ils écrivent. Pourquoi c'est pas le cas pour un quatuor à cordes tel que le quatuor Bella, par exemple? Pourquoi vous passez pas le cap de la composition?
On est dans des choses qui demandent une vraie spécialisation. C'est vrai que, je veux pas me faire mousser, mais les partitions qu'on joue, les musiques qu'on joue sont quand même souvent assez difficiles à jouer, assez compliquées, demandent vraiment beaucoup de travail, de répétition. Il y a certaines œuvres qu'on a mis vraiment un an à monter. Et qui sont encore toujours perfectibles aujourd'hui, d'ailleurs. C'est toujours, on essaye de faire de mieux en mieux. Donc c'est difficile de mélanger le statut d'interprète et celui de compositeur qui, de son côté, travaille beaucoup, doit faire des recherches, doit perfectionner son langage. Ceci étant dit, il se trouve que moi-même, j'écris de la musique, en réalité, et que le Quatuor Bella, donc, joue la musique d'un de ses membres. Ce qui, effectivement, n'est pas courant dans notre milieu, et ce qui est bien agréable, ma foi. Bien agréable d'écrire en pensant à ses camarades, comme je les connais très bien, comme je sais de quoi on est capable, ce qu'on aime jouer, ce qu'on aime moins... ça me permet d'écrire une musique vraiment faite pour nous.
Dernière question, qu'est-ce que vous attendez d'un festival comme les musiques du GMEM à Marseille ?
Un festival comme celui-là, c'est évidemment essentiel pour nous, très très important, parce que comme tout le monde peut s'en rendre compte, les musiques qu'on défend ne sont pas très très médiatiques, ne sont pas très diffusées. Et donc il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un à un moment qui se dévoue pour le faire et qui porte cette chose-là, qui porte cette musique. Donc un festival comme ici à Marseille, c'est capital pour nous. Ce soir, on vient de jouer une pièce écrite par deux compositeurs, Thierry Blondeau et Daniel D'Adamo. C'est la deuxième fois qu'on la joue. J'espère que l'an prochain, on va pouvoir la rejouer. Je pense que oui. Mais voilà, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de maturation de notre part, de la part des compositeurs surtout. Et c'est quand même terrible de se dire que c'est joué deux, trois, quatre fois. C'est quand même le destin de beaucoup de musique contemporaine de n'être pas beaucoup reprise. La reprise est un vrai problème dans nos musiques. Il y a pas mal de créations, beaucoup de subventions pour la création. La nouveauté excite beaucoup les gens. Mais ensuite, la vie des œuvres, les reprendre, les faire tourner, ça, c'est beaucoup moins excitant, peut-être. Je disais que la pièce de ce soir, c'est la deuxième fois qu'on la joue. C'est déjà pas mal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réellement jouées une seule fois et qui finissent dans un tiroir et dont on n'entend plus jamais parler. Donc ça, c'est... Voilà, c'est un peu triste, évidemment.
Pour terminer ce petit panorama sur la grenouille de quelques ensembles instrumentaux de musique contemporaine présents dans le Festival des Musiques 2012 à Marseille, nous vous proposons d'écouter maintenant Tom Powells, guitariste de l'ensemble Ictus, un ensemble invité à jouer Professeur Bad Trip du compositeur italien Fausto Romitelli, une musique chorégraphiée par Maud Le Pladec, un spectacle qui a été présenté sur la grande scène de la Criée le 15 mai dernier. Tom Powells est aussi co-directeur artistique de l'ensemble Ictus, un ensemble créé en Belgique en 1994 pour la création d'Ultima Vez du chorégraphe Wim van de Kebus et qui depuis a accompagné de multiples spectacles de ce chorégraphe ainsi que ceux de la compagnie Rosas d'Anne Teresa de Kersmaeker. Tom Powells.
Généralement, je crois que tous les spectacles qui scéniques avec un élément scénique restent sont de plus en plus importants pour nous. Je crois que nous sommes plus un ensemble de répertoires qui font du répertoire et trois pièces une soirée, trois pièces pour ensemble et chef. Je crois qu'on a fait ça jusqu'il y a cinq années, mais ça devient de moins en moins important ou ça arrive de moins en moins.
Ça arrive de moins en moins ou ça vous intéresse de moins en moins ?
Ça nous intéresse de moins en moins, ça s'assure.
Pourquoi ?
Parce qu'on préfère concevoir une soirée comme un spectacle. Même s'il s'agit que de musique instrumentale, on aurait bien soigné tout le déroulement de ne pas voir les podium changes, comment dire en français, les changements de plateau qui parfois causent des longues pauses. On voit les techniciens courir d'un côté à l'autre, le public qui s'ennuie dans la salle et attend sur la prochaine création importante avec le compositeur qui est dans la salle, qui vient saluer après. Ça, c'est vraiment... ça n'existe plus chez nous. Ça, c'est très rare qu'on fait ce genre de spectacle encore. Alors, même s'il s'agit de musique instrumentale, on essaye de penser une dramaturgie, des transitions fluides, on joue avec des concepts où il n'y a plus de chaises dans la salle, on installe quatre podiums. On essaye différentes choses qui rendent ça plus contemporain, à notre avis.
Pour vous, ce terme de contemporain, qu'est-ce que ça recoupe aujourd'hui dans une pratique musicale ?
Oh, c'est très large. évidemment, on s'intéresse encore à la création. Hein. On continue à créer des œuvres, hein, même si c'est plus dans ce format de 12 minutes. Hein. Voilà, ça a été longtemps quelque chose d'obligé. Hein. Voilà, 12 minutes, c'est la durée d'une pièce de musique de chambre. Voilà. Il ne faut pas dépasser les 12 minutes. Ou bien 60 minutes, ça existe aussi. Mais voilà, on essaye de faire exister des spectacles de danse musicale ou de pièces chorégraphiques. Mais ce n'est pas vraiment une question de ce qui est contemporain. Je crois que c'est qu'on flirte évidemment avec différents autres médiums. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut exister sur scène autrement que musicien. Je crois qu'on reste toujours musicien, mais voilà, on flirte avec l'improvisation, avec d'autres styles aussi. Je crois que c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Pas nécessairement faire de la musique rock, hein, mais comment être conscient d'autres pratiques de musique, hein, actuelles. Voilà, notre flûtiste, par exemple, c'est un performer extraordinaire qui aussi chante, qui s'est développé aussi un peu comme chanteur. Hein, c'est beaucoup dit, mais quand même, il fait des poèmes de Schwitters, il fait la musique, il chante la musique de Parch. Alors on essaye de...
Ces musiciens, ce sont des gens qui ont été formés de façon académique ou...
Mais quand même, je crois que ça reste quand même une première... nécessité, quoi. Il faut pouvoir lire la musique. Ça, je crois que ça n'a pas changé. On travaille toujours d'une partition, même s'il est très graphique ou très verbal. Hein, mais quand même, la plupart des projets sont basés sur ce qu'on appelle de musique écrite. Ça, je crois que ça reste la base. Mais voilà, tout le monde a une expérience dans la musique rock ou dans le jazz ou dans la performance ou avec électronique. Je crois qu'on profite de plus en plus de ces différents talents. Hein. Même nos musiciens les plus âgés, hein, disons, qui ont maintenant 50 ans ou plus, hein, ils ont joué dans des groupes rock dans les années 80. Hein, et j'ai l'impression que maintenant, cette expérience peut trouver une place dans la programmation sans qu'on fait du rock. Hein, c'est difficile à expliquer, mais c'est plutôt une liberté que je ressens aujourd'hui, ouais, qu'on peut puiser de ces différentes traditions musicales.
Professor Bad Trip, lesson 3.
C'est sur ces mots de Tom Powells de l'ensemble Ictus que se termine cette émission spéciale consacrée aux ensembles instrumentaux de musique contemporaine, une émission imaginée en partenariat avec le GMEM, Centre National de Création Musicale, à l'occasion de l'édition 2012 du festival Les Musiques, un festival qui se déroule jusqu'à ce samedi 19 mai dans de multiples lieux à Marseille. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez réécouter l'ensemble des émissions qui ont été réalisées autour de ces musiques 2012 sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com. Plus d'infos et contacts sur le GMEM et la programmation du festival Les Musiques 2012 sur le site gmem.org.